Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux du lundi. Lundi, c'est le jour d'après les rencontres des cinémas d'Europe, pour nous, où nous étions toute la semaine jusqu'à hier. Bonjour et bienvenue, votre main a ripé sur le bouton de votre poste de radio, et hop, vous voilà dans l'émission L'Onde Curieuse, à la bonne heure. C'est donc un peu une onde curieuse de lendemain de fête, on a un peu la gueule de bois ou mal au crâne, mais ça ne nous empêche pas de continuer de vous proposer des belles initiatives qui font battre le cœur de l'Ardèche. Battre le cœur, le mot peut être perçu comme un peu violent, mais non, c'est pas une agression contre le cœur, c'est le principe vital du cœur. Il bat, donc il vit. Bon, c'est une digression un peu à côté, mais pour vous dire un mot, notre deuxième partie d'émission qui sera consacrée à l'atelier mené par Vivi autour du livre « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman, la troisième partie, c'est-à-dire elle a déjà fait deux ateliers. Donc atelier qui aura lieu dans les locaux du planning familial d'Evance demain soir à 19h30, mais on en parlera avec Vivi après midi et quart. Avant, on parlera avec Marie Soriano des troisièmes rencontres culturelles du territoire qui auront lieu demain à 17h30 à Bourg-Saint-Andéol. C'est une rencontre qui est organisée pour co-construire les projets d'éducation artistique et culturelle de l'année scolaire prochaine avec toutes les personnes, les organisations, les structures qui sont intéressées sur la communauté de communes Draga, donc autour de Bourg-Saint-Andéol, Vallon-Pont-d'Arc, etc. Mais avant cela, on remonte encore le temps et on fait un petit point agenda. Alors j'aurai mes deux invités au téléphone, mais je ne suis pas seule dans ce studio, puisqu'il y a Sylvain qui est là à la technique. Salut Sylvain.
Bien le bonjour.
Et Nico qui est à mes côtés pour nous donner aussi quelques nouvelles du pays. Alors on commence,
Pas bonjour.
Non, pas bonjour.
Salut à vous.
Moi je te laisse même pas le temps, mais c'est vrai.
C'est pas grave, salut, salut.
Je cours. Je le disais, c'est le jour d'après week-end, jour d'après des rencontres. Alors je vous propose de ne pas perdre la main et de penser au week-end prochain et ou aux projections. Projection, évidemment, quand on parle de week-end prochain, c'est déjà une projection, mais projection de film.
Ah, oui. Mais oui.
Mais oui, je commence avec le mois
de... J'y suis. Tu es déjà dans le futur, c'est très bien. Oui. Eh ben oui, oui. Alors, on parlait de l'agriculture du futur. Et le futur, c'est déjà maintenant, c'est aujourd'hui, quoi. On est en 2024, faut qu'on se rappelle, qu'on se le rappelle. C'est pour revenir après les vagues de chaleur, la sécheresse, les gels tardifs, etc. Ben oui, le climat se dérègle. Tiens donc. L'agriculture doit bifurquer. Oui, mais vers où? Bonne question. Eh bien, vous pourrez en parler à La Blachère ce mercredi 29 novembre à 18h avec la projection en avant-première du film qui s'appelle « La théorie du boxeur ». Nathanaël Coste, réalisateur, enquête dans la vallée de la Drôme pour comprendre comment les agriculteurs et agricultrices s'adaptent. Mais on se questionne aussi sur la résilience alimentaire des territoires. C'est un film produit et distribué par l'association Kanehameha qui avait déjà produit un film qui s'appelait « En quête de sens ». La projection sera suivie d'un échange dans le cadre des rendez-vous agroécologiques mensuels organisés par Terre et Humanisme. La billetterie est à 4€ minimum. Pour des infos, vous pouvez appeler le 04 75 36 64 01 ou encore aller sur l'adresse communication@terreethumanisme.org.
Terre-humanisme.org.
Petit rappel aussi, il y a une autre campagne qui est intéressante là et qui est valable jusqu'à la fin du mois de décembre, qui s'appelle La bio en danger. Et c'est une campagne un peu nationale, une campagne d'information qui rappelle que rien de ce que les différents gouvernements précédents s'étaient engagés à faire, rien n'est fait et rien n'a été fait, comme en écologie, transition énergétique, etc. Il nous rappelle que seulement... Tu transgresses, mon Dieu. Que seulement 2% des 9 milliards alloués d'aide européenne à la bio, seulement 2%, et c'est déjà pas grand-chose, seulement ces 2% ont été versés, que les pesticides qui devaient être divisés par deux en 2012 puis encore divisé par deux en 2017, pour en être encore divisé par deux en 2025, et ben que rien qu'entre 2017 et 2021, ça a augmenté de 23%, etc., etc.
Je rappelle, parce que tu parlais des 2%, il faut bien comprendre que ces 2% qui sont attribués aux paysans bio, alors qu'ils représentent 10% de la population.
En France, et qu'on est le 15e sur la liste. En Autriche, ils sont à 25% de terres en bio. En Suède, ils en sont à 20%, etc. Mmh. etc. Bref, oui, chez nous, le bio, ça représente que 10% des terres agricoles et 13% des fermes. Voilà. Donc c'est une campagne pour s'informer, pour agir. Je vous rappelle que le budget, qui est en tout cas dans les chiffres, le budget d'agriculture, le budget 2023, c'est 5 987 milliards d'euros, dont seulement 2% sur le papier qui devrait être donné au bio, et dans la réalité, c'est même pas fait. Enfin bref. Mmh. Vous pouvez venir en discuter, en débattre, échanger et voir plein de choses. C'est à La Blachère, mercredi 29 novembre à 18h. Continuons à être au courant, conscients pour pouvoir mieux appréhender l'agriculture du futur.
Yes. Ah ouais, la théorie du boxeur. La boxe, ça me fait penser que il reste des places pour un stage d'autodéfense pour femmes et personnes non binaires à partir de 16 ans sur Aubenas, les 16 et 17 décembre. C'est un stage qui est organisé par l'association La Fougue, et donc qui vous propose, ils avaient déjà fait ça, un stage d'autodéfense qui vise à gagner en confiance en soi, à sentir prêt ou prête à riposter face à des situations désagréables, voire même dangereuses. Alors, il y a du verbal, il y a du physique aussi en alternance avec des moments d'échange, tout ça dans un cadre qui se veut justement assez confortable pour chacun, confortable et respectueux pour chacun et chacune d'entre vous. Il n'y a pas besoin d'une condition physique particulière. Il faut par contre s'inscrire donc auprès de la Fougue avant le 1er décembre, c'est-à-dire avant la fin de la semaine. Je vous donne les infos. Vous trouverez toutes les infos sur assolafougue.fr. Et puis là, vous serez redirigé sur ce stage, donc qui aura lieu les 16 et 17 décembre à Aubenas. Et les tarifs, eh ben justement, ça se veut le plus accessible possible. Donc, c'est en fonction notamment du quotient familial ou en fonction des revenus. Revenons, Nico, si tu fais bien, puisque on a croisé nos sujets. Ouais, la boxe. On a croisé nos sujets. Non, on revient à, au cinéma et à la projection. Et c'est moi qui en parle, puisque pour un film, justement, une projection, c'est pareil. Ce sera mercredi à 20h, mais c'est à Mercué, dans la salle Mercure. Et c'est dans le cadre du mois du documentaire. Alors ce mois du documentaire, on en a déjà parlé ici, hein, pendant tout le mois de novembre. C'est porté par la médiathèque départementale d'Aubenas, donc souvent dans les médiathèques, les bibliothèques. Il y a des documentaires qui sont projetés et des réalisateurs, réalisatrices qui sont invités. Donc l'occasion d'en débattre et de partager autour de ce film. Et donc mercredi, ce sera au sujet du film qui s'appelle 143 rue du désert. Donc à la salle Mercure, à partir de 20h, c'est un documentaire qui est signé par Hassan Ferrani et qui suit l'histoire de Malika. Un mot quand même sur ce film, parce que Malika, c'est une femme qui a plus de 70 ans, algérienne, pas d'enfants, pas de parents, et qui tient depuis une trentaine d'années une buvette le long de la Nationale 1. C'est la plus longue route du continent africain qui relie Alger à Tamraset. Ça me fait un peu penser au film Bagdad Café, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et elle est toute seule dans cette bicoque en ciment, en plein désert, et elle accueille les voyageurs de passage. Elle leur file des clopes, du café. Et puis surtout, en fait, c'est l'occasion pour eux de raconter, de se raconter, de dire des choses. Et c'est souvent d'ailleurs des routiers, des hommes et leurs rêves. Donc un film qui promet d'être très intéressant. Et donc, il y aura le réalisateur Hassan Ferrani pour discuter, échanger avec lui. C'est donc à Mercué, à la salle Mercure, le 29 novembre à 20h. Et pour rester.
Mais oui, voilà. On reste à Mercuée. Parce que vous avez au moins entendu parler du café associatif qui s'appelle le Pas de Côté. Je vous rappelle, il est ouvert en 2019 avec pour objectif de créer du dynamisme, du lien, de la solidarité à travers de l'art et la culture. Bref, un lieu vivant qui permet des rencontres et des échanges. Eh bien, ils ont réussi en fait. Le café associatif, il est géré par l'association à Rebrousse-Poil Productions. Association loi 1901, 700 adhérents, budget 70 000 euros par an, dont 70% de l'autofinancement, mieux que l'État, 2 salariés, 38 bénévoles, 53 artistes et techniciens employés en 2023, etc., etc. Bref, c'est plein de choses, mais c'est aussi des concerts, des expos, des résidences d'artistes, du théâtre, des journées de jeux, des cours de théâtre et plein d'autres choses. Un dépôt de pain, fromage bio et local toutes les semaines, une épicerie de soutien aux producteurs locaux, un lieu ouvert, on peut venir boire un coup. Et là, ils ont des petits problèmes, eux aussi, de financement public. Les baisses des financements publics, les aides s'arrêtent en mars 2024, les subventions et les aides espérées, elles ont été soit ou arrêtées, soit revues à la baisse. Et leur objectif à eux est de pérenniser les deux emplois du Pas de Côté pour assurer la continuité du fonctionnement de ce café. Il leur manquerait à peu près sur le budget 20 000 euros par an, ce qui fait à peu près 30% de leur budget. Alors là aussi, vous pouvez les aider.
Non, pas forcément en donnant de la thune.
En donnant de la thune, mais aussi en allant aux concerts, aux événements qu'il y a, mais aussi en signant la pétition qui est sur le site change.org et ça s'appelle Sauvons le café associatif, le Pas de Côté à Mercuée.
Pour qu'il y ait encore plein de super rencontres culturelles.
Et puis encore plein de lieux où ce soit possible. Là, on se rend compte que c'est pas si évident, quoi.
Merci beaucoup, Nico. Rencontre culturelle, justement, on va en parler avec notre invitée Marie Soriano. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne ici avec nous à Fréquence 7. Nous parlons donc des troisièmes rencontres culturelles du territoire qui auront lieu demain à 17h30 à Bourg-Saint-Andéol, qui s'inscrit dans ce projet, dans les projets d'éducation artistique et culturelle. C'est donc une rencontre qui est organisée pour co-construire avec toutes les personnes et les structures intéressées sur la communauté de communes de Draga pour construire ensemble les projets qui seront retenus dans l'année scolaire 2023-2024, donc des projets d'éducation artistique et culturelle. D'abord, avec vous, un mot sur le cadre, c'est-à-dire la Convention territoriale d'éducation artistique et culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire juste en un mot?
En un mot.
Ah, en deux. Pour qu'on comprenne bien dans quel cadre ça s'inscrit.
Ça s'inscrit dans un cadre institutionnel.
Mmh. Au niveau national.
En fait, c'est institutionnel. Effectivement, en fait, on a des partenaires qui sont assez varié. C'est une convention qui est signée. Bon, je suis désolée, je peux pas dire en deux mots, c'est impossible. Déjà, c'était assez il y a 5 mois dedans. Donc, en fait, c'est une convention qui est signée avec donc la communauté de communes, l'État, le ministère de l'Agriculture, l'Éducation nationale, le ministère de la Justice, de l'Agriculture.
Donc, Marie, excusez-moi.
Oui.
On vous entend mal, ça grésille. Est-ce que vous pouvez soit ne pas bouger, soit vous mettre dans un lieu qui capte? C'est le charme de l'Ardèche.
Je suis dans mon bureau, normalement ça capte. Donc,
et là on vous a retrouvé, là on vous entend bien.
Ok, je ne bouge plus.
Donc vous disiez...
Oui, donc en fait, c'est une convention qui est multipartenariale, donc on va dire l'État, le département, la région, mmh, Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ardèche et d'autres institutions comme la CAF ou le réseau Canopée. Et en fait, cette convention, elle a pour objectif de mettre en place des programmes, des projets d'action culturelle envers les habitants de notre communauté de communes.
D'accord. Alors, donc c'est au sein de cette convention territoriale, c'est donc dans ce cadre qu'ont lieu ces troisièmes rencontres culturelles du territoire. En gros, mais pour qu'on comprenne bien votre démarche à vous, demain, c'est de faire se rencontrer toutes celles et ceux qui éventuellement ont des projets artistiques et culturels pour que eux-mêmes s'expriment et que vous ne décidiez pas, vous, toute seule, des projets que vous allez mettre en place. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est ça, et c'est un petit peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui se retrouvent à ces rencontres culturelles, elles viennent d'endroits très différents. Ça peut être des enseignants, ça peut être des artistes, ça peut être un théâtre, une scène de musique actuelle. Ça peut être un directeur d'hôpital, un directeur d'EHPAD. En fait, ils ont en commun l'envie de travailler ensemble pour créer un projet d'action culturelle qui permette à des personnes de vivre des choses exceptionnelles, on va dire. Des choses exceptionnelles qui sont permises par la rencontre avec des artistes, parce que c'est ça qui est au cœur aussi des projets d'éducation artistique et culturelle. C'est la rencontre avec un ou des artistes, on parle aussi de culture scientifique, donc ça peut être aussi avec un scientifique, et de leur univers. Et en fait, ils vont partager ensemble cet univers pendant un certain laps de temps. Ils vont aussi pouvoir pratiquer, expérimenter plutôt des pratiques artistiques. Donc ça peut être du chant, de la danse, de l'écriture, de la photographie, voilà, plein de choses. Et en fait, ça permet aussi, enfin l'enjeu aussi de ces projets d'action culturelle, c'est de s'ouvrir au monde, c'est aussi d'avoir de multiplier les moyens d'expression. Enfin voilà, y a pas mal d'enjeux comme ça qui réunissent toutes ces personnes qui se retrouvent à ce moment-là. Et l'idée, c'est de construire ensemble des projets. Voilà.
Alors, on a bien entendu que ça ne s'adresse pas, malgré le nom qui pourrait évoquer uniquement le côté pédagogique scolaire au sein d'établissements scolaires, éducation artistique et culturelle, ça va bien au-delà de ça.
Tout à fait.
Alors, demain, ce qui va se passer, c'est on est au milieu du processus, c'est-à-dire que vous avez déjà repéré des personnes, des acteurs, des théâtres, des hôpitaux, etc., qui sont intéressés, vous les avez déjà ciblés, et aujourd'hui, donc, ils sont invités pour se rencontrer. C'est bien ça ? On est un peu au milieu du processus. Comment ça se passe ?
En fait, moi, j'invite toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Après, chacun, il y a des enjeux de temps, de disponibilité, ou parfois aussi d'intérêt. Et à partir de là, donc les personnes peuvent, j'envoie un formulaire, on va dire, d'inscription, une invitation, on envoie une invitation, la communauté de communes invite toutes ces personnes. Et ensuite, comme on a très peu de temps demain soir pour travailler ensemble, j'essaye de en amont, une fois que les personnes se sont préinscrites, on essaye de voir un petit peu quels sont les intérêts en commun, qui aimerait bien rencontrer qui. Enfin, j'essaye de mâcher un petit peu le travail, on va dire, pour que demain soir, on soit vraiment sur...
sur les projets eux-mêmes et dans le cœur du sujet.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de projets qui ont été mis en place là, l'année dernière, ou qui vont avoir cours cette année, puisque là, je le rappelle, ce sera pour les projets de 2023-2024. Quelques projets qui seront retenus. Combien ? 4, 5, 6 ?
Alors, ce sera pour les projets 2024-2025, parce que les projets 2023-2024, ils sont en train de commencer. Donc, on s'y prend longtemps à l'avance, mais après, c'est sûr que quand on travaille, le fait de travailler ensemble, ça, le processus prend parfois pas mal de temps. Donc, c'est très précieux. Donc là, par exemple, un projet... on a eu un projet autour d'une thématique qui était visible, invisible, rendre visible des personnes qu'on voyait peu dans nos sociétés. Mmh. Enfin, en tout cas, que les personnes qui étaient là, les acteurs qui étaient là, trouvaient que,
se sentaient que
c'était important de les mettre en avant. Donc là, on a travaillé avec... c'est à l'issue des rencontres de territoire en 2021, parce que du coup, c'est pour 2022-2023, sont rencontrés autour de la table, donc une directrice d'EHPAD, Ardèche Images. Ardèche Images, c'est une structure qui fait du film documentaire, qui, mmh. normal, qui organise notamment les états généraux du documentaire à l'UCHA. Vous parliez du documentaire tout à l'heure. La SMAC 07, on a, autour de la table, il y avait aussi... la direction territoriale de l'action sociale qui était invitée, qui est venue aux rencontres de territoire. En fait, ils ont travaillé ensemble pendant quelques mois à monter un projet. En fait, on a eu deux projets qui sont sortis de ces rencontres. C'est les Mamies Guitares. Mmh. Donc, c'est un projet pour des habitantes de plus de 60 ans, d'ateliers d'écriture et de musique improvisée sur des guitares électriques. Mmh. qui a duré une semaine, et ces Mamies Guitares ont fait la première partie d'un groupe, enfin, faisait partie de la programmation, du coup là c'était de la SMAC 07. Ouais. Voilà, et le deuxième volet de ce même projet qui a été issu des rencontres de territoire, c'est un film collectif qui a été réalisé par... des résidentes et leurs aides soignantes de l'EHPAD Sainte-Marie, l'EHPAD Marie-Rivier à Bourg-Saint-Andéol, et deux personnes de l'association familiale de Bourg-Saint-Andéol qui ont réalisé un film documentaire qui est absolument incroyable. La projection a eu lieu il y a deux semaines et qui montre, enfin, on n'est pas du tout sur un reportage, hein. C'est vraiment quelque chose qui montre le lien qui se tisse entre ces personnes. Et voilà. Donc ça, c'est des expériences inoubliables pour les participants et puis aussi après pour le public qui voit ces films ou ces concerts. C'est, voilà, il se passe des choses très belles dans ces projets.
Très bien. Mais merci beaucoup. Là, on a essayé de voir un petit peu les coulisses, justement, jusqu'où, enfin, les coulisses avant le rendu dont vous venez de nous parler. Effectivement, le rendu, c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup de découvertes, beaucoup d'ouverture pour la plupart des habitants. Donc là, on est sur la communauté de communes Draga, et ces rencontres culturelles du territoire auront lieu demain à 17h30, donc à Bourg-Saint-Andéol. Merci beaucoup, Marie Soriano, de nous avoir parlé de ces rencontres culturelles.
Merci pour votre invitation.
Allez, on continue en musique.
Look up at the
Vous êtes bien sur Fréquence 7 et vous venez d'écouter Soomti No Worries, extrait de son sixième album The Louder The Better, sorti en octobre 2023. C'est une nouveauté là dans la playlist de Fréquence 7. No Worries, qui est un titre en forme d'hommage à Bob Marley. C'est un clin d'œil à Three Little Birds, en perpétuant son message d'espoir dans la difficulté, scandé dans les mots « No worries, everything's gonna be alright ». Tout ira bien, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, mais tiens, ça c'est une question dont on va parler avec Vivi qui est au téléphone avec nous. Salut Vivi.
Bonjour.
Alors Vivi, tu es là pour nous parler de l'atelier qui va avoir lieu demain à Auvence. L'atelier groupe de travail autour du livre « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman. Et je le disais tout à l'heure, c'est la troisième partie de cet atelier. Alors, ben, je suis très contente de t'avoir au téléphone pour parler un petit peu de ces ateliers dont on se fait le relais ici souvent dans Monde Curieuse. Ben, c'est l'occasion que tu nous dises un petit peu ce que sont ces ateliers de manière générale avant de parler de celui-ci et de ce livre, Le conflit n'est pas une agression. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers ?
Alors, bah déjà, merci d'avoir fait le relais à chaque fois, c'est hyper intéressant pour nous. Pour nous, parce que, en fait, ces ateliers, ils ont été initiés avec Seb, qui est professeur de philosophie à Lille. Et c'était il y a un an, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas des ateliers pour lire des livres, parce que lui, il faisait des cafés philo. Mmh. Et lui, il avait entendu que moi, je faisais plutôt des ateliers comme des arpentages qui viennent de l'éducation populaire. Et donc, on s'est dit, bon, bah, allez, on se fait un cycle de trois livres chacun, chacune, et sur une thématique particulière. Et on s'était dit qu'une fois par mois, pendant 2 heures, on réunirait les personnes qui ont envie de venir autour d'un livre. Et donc, à la manière d'un arpentage, donc l'arpentage, c'est ce qui a été, c'est un mot d'éducation populaire pour dire, c'est des ouvriers avant qui faisaient ça pour avoir leur savoir et pour que tout le monde puisse apprendre les savoirs, en fait, déchirer un livre. Et tout le monde lisait un peu du livre de son côté, et comme ça, ils lisaient tous le livre en même temps pour avoir accès au savoir. Mmh. Donc c'est un peu à cette manière, mais pas du tout, enfin, c'est pas exactement ça non plus, parce que déjà, moi, je déchire pas mes livres, j'y arrive
la
pas.
La photocopie a remplacé l'arrachage des pages.
Voilà, exactement. Et après, on va sur des sujets, c'était plutôt sur les dynamiques de domination qu'on avait fait la dernière fois avec Seb. Mm-hmm. Et moi, c'est des sujets que j'aime bien, c'est des livres qu'on va pas forcément lire chez soi parce que c'est des gros livres qui peuvent être chiants, enfin je veux dire avec des mots longs, et on n'a pas le courage de le lire chez soi, c'est pas agréable, c'est pas une BD, c'est pas un roman. Par contre, quand on est plusieurs autour d'une table à s'intéresser au sujet, tout de suite ça devient moins dur de lire 5 pages ensemble et puis de retranscrire ces 5 pages au reste du groupe. C'est un peu ça le principe. Mmh. C'est que chacun, chacune lise de son côté. Pendant un certain temps, et puis peut dire à tout le groupe ce qu'il a compris ou ce qu'elle a compris, parce qu'en fait il y a ça, c'est qu'en fait on comprend tous et toutes des choses différentes dans les livres, et c'est ça qui est intéressant, et de revenir dans le groupe en expliquant ce qu'ils ont retenu. Ça permet, je trouve, à des personnes qui n'ont pas envie de lire certains livres, de venir juste les feuilleter et de se dire ah oui c'est pas mal, et peut-être qu'un jour ils les liront, ou peut-être pas du tout, quoi. C'est ça plutôt l'idée.
Alors là, tu as choisi Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman, qui est aussi un livre qui porte, tu le disais, hein, aussi sur les dominations. Comment on peut s'extraire de ça? Alors Sarah Schulman dans ce livre, mais tu vas nous en parler, elle critique justement la confusion qu'on fait actuellement entre conflit et agression. Elle propose de repenser la manière dont on crée des liens sociaux et politiques en dehors de ce, qui ne soit pas ni destructeur ni négateur des vies. Est-ce que c'est un peu l'idée ou?
Ouais, enfin je pense. Vas-y. Après le livre de Sarah Schulman, donc Le conflit n'est pas une agression. Donc Sarah Schulman, elle a 65 ans. Elle est américaine, romancière et dramaturge. Elle a beaucoup milité pour les droits humains et LGBT. Elle a fait partie d'ACT UP. Donc c'est quand même un gros morceau. Enfin, on y va quoi dans son livre. Et ce livre, il est... il est assez connu des milieux militants. C'est-à-dire que on le retrouve partout quand on va sur des actions ou sur des groupes de réflexion. Et moi, je l'avais jamais lu et j'ai vu plein de gens en parler, dire que c'est incroyable. J'ai écouté des podcasts de Sarah Schulman. En effet, elle est plus accessible que dans son livre. Et mais ce livre est un peu, c'est un tournant. Il y a des gens qui se réfèrent beaucoup à ce livre et je peux comprendre pourquoi, parce qu'ils repensent complètement le conflit par rapport à l'agression. Et elle a trois grosses parties dans son livre. Elle part soit du conflit intime, qu'on connaît tous et toutes, enfin je veux dire, de toute façon on connaît tous et toutes. Hein. Après l'escalade, le conflit aussi en société, l'escalade du conflit dans les institutions aussi. Elle parle beaucoup du Canada avec le traitement des personnes qui ont le VIH, qui est pour moi scandaleux. Merci Sarah Schulman, je ne connaissais pas. Et ensuite elle va finir sur une grosse partie, tenez-vous prêts et prêtes, qui est très d'actualité, elle va finir sur le conflit entre guillemets israélo-palestinien.
Alors, on va y revenir, mais quelle distinction elle fait entre conflit et agression ?
Ben ça, donc on a fait les deux premiers ateliers autour de ça. Moi, je l'ai lu, de ce que je peux restituer, et puis ça se trouve, j'ai pas bien compris, attention, hein, mais concrètement, elle demande à faire très attention à ne pas tout de suite mettre un conflit dans l'agression. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à dire à une personne, ouais, tu t'es fait agresser. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas son ressenti. Et elle propose de poser d'autres questions. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu peur pour ta santé physique, ta santé mentale? Et en fait, de juste vérifier que, par exemple, des fois, on peut dire oui, je me suis fait agresser. Et en fait, c'est un conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire... eu de peur de mourir. Bah, l'agression, c'est quand même une agression physique, par exemple, ou mentale, c'est quand même la diminution de quelqu'un en face, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a peur de mourir, on a peur que l'autre nous nuise à un point vraiment très fort, quoi. Ça, c'est une agression. Mm-hmm. Mais des fois, on va se sentir agressé pour quelque chose qui est de l'ordre du conflit. Et donc,
c'est-à-dire
si on
de l'ordre
pas,
du conflit.
Bah, par exemple, ton voisin, j'essaye de prendre un truc, ton voisin, il va mal te parler parce qu'il n'est pas content, t'as pas fermé ton portail. Tu vois. Mm-hmm. Toi, il va te dire dès le matin, qu'est-ce que c'est, ce portail est mal fermé. Toi, tu pourrais assez dire, il m'a agressé dès le matin. Mm-hmm. En fait, si je te pose la question, est-ce que tu as eu peur pour ta vie?
Non.
À ce moment-là, voilà. Et en fait, c'est de faire attention à ça et de se dire que c'est plus un conflit qu'une agression. Donc, est-ce que je peux aller parler à mon voisin pour voir comment on peut faire sur cette porte plutôt que tout de suite crier au scandale, d'aller voir la police et de partir dans des trucs procéduriers.
D'accord.
Là, je schématise, hein, mais il faut lire évidemment bien plus le livre. Mais dans l'idée, moi, c'est ce que j'ai compris, quoi.
Et ce qui s'inscrit, effectivement, là, on est dans un contexte, donc Sarah Schulman, elle est américaine, et on est aussi dans un contexte des États-Unis où il y a énormément, enfin c'est un pays extrêmement procédurier. Il y a aussi cet aspect, mais comme tu le disais, il n'y a pas que cet aspect, on va dire, personnel, intime, interpersonnel. Tu l'as évoqué dans la troisième partie du livre, notamment, où elle parle du conflit israélo-palestinien, qui va être donc l'objet de cet atelier demain, si j'ai bien compris.
Oui.
Et donc, c'est aussi au niveau national, international, ce n'est pas qu'au niveau personnel ou intime.
Exactement. Bah, en fait, elle part de l'intime, comme beaucoup d'autrices. Partir de l'intime, ça permet de montrer à quel point ça résonne après sur le reste. Mmh. Et que tout est lié. Enfin, qu'il n'y a pas de... On laisse de côté ce qui se passe dans la maison entre quatre murs et on laisse de côté ce qui se passe dehors, hors de chez nous, quoi. Elle fait vraiment tout un lien dans son livre qui fait que bah, le conflit ou l'agression est partout. Mmh. Voilà, ce qui permet de ne pas fermer les yeux, quoi.
Et ce qui est intéressant, alors je n'ai pas eu la possibilité de lire le livre, pas encore.
Mais, il te faut du temps, oui.
Oui, mais ce livre, dans ce que j'ai pu voir, est assez concret. C'est-à-dire, il prend des exemples. C'est pas un corpus philosophique de manipulation de concepts abstraits. C'est vraiment
ah oui, non,
dans le
tout,
concret.
Ouais.
Hein.
Ah oui, tout est concret. Hein. Franchement, à chaque chapitre, il y a des exemples, elle illustre pour qu'on puisse, pour qu'on puisse se figurer de quoi elle parle. Enfin, c'est très américain, je crois, de faire ça, hein, de partir d'une situation pour pouvoir développer son concept. Et moi, je sais que ça me permet de bien comprendre ses idées. Quoi.
Ou à l'inverse, c'est très français de faire l'inverse. De partir de quelque chose de très conceptuel et puis de trouver des exemples pour nourrir son propos. Qu'est-ce que ça change de faire la distinction entre agression et conflit?
Alors qu'est-ce que ça change? Parce qu'il y a un autre truc en plus, il y a aussi la notion des traumatismes. Elle parle beaucoup des traumatismes, ça c'est important, parce que je rebondis avant de répondre à ta question.
Bien sûr.
Parce que elle en fait pas quelque chose dont on ne parle pas. Sarah Schulman, elle parle vraiment du principe de traumatisme, qui est un vrai délire, hein, c'est-à-dire que genre une personne traumatisée, quand elle va revivre une situation, va avoir des actions, enfin une façon de réagir, qui est propre au fait qu'elle est en train de réagir à un traumatisme qu'elle a vécu. Ça s'applique à une population, à des groupes, ça s'applique à tout. Quoi. Donc en fait, elle, ce qu'elle montre, c'est que ce mécanisme de traumatisme, tant qu'il n'est pas résolu, en fait, les personnes dominantes qui ont créé les traumatismes chez les autres vont partager, et ça c'est assez douloureux à entendre, mais c'est assez intéressant aussi, vont partager les mêmes mécanismes que les personnes traumatisées. Et ça, elle le montre, c'est-à-dire que ils sont pas aux mêmes endroits, il y a des personnes qui ont des privilèges, d'autres qui n'en ont pas, mais par contre, dans les faits, elles vont réagir de la même manière, à savoir garder le pouvoir, garder le contrôle, peut-être aboutir à l'exclusion de certaines personnes. Enfin voilà. Et ça, elle montre comment tant qu'on ne règle pas nos traumatismes, ça ne peut pas avancer. Et donc, pour répondre à ta question, à quoi ça sert? C'est-à-dire que si par exemple tu mets une personne tout de suite dans une case de victime, tu l'aides pas à résoudre un conflit. Parce que dès lors que tu es dans une agression, tu n'es plus dans le conflit. Le conflit, c'est deux personnes ou deux entités qui vont parler pour trouver un accord commun et trouver une voie qui va être OK pour les deux. Mais si tu pars dans le domaine de l'agression, ça ne peut pas exister, ça. C'est pas en étant en agressant quelqu'un ou en étant victime que tu peux trouver un compromis ou que tu peux trouver une voie de paix.
C'est ça. Il n'y a pas de médiatisation possible dans l'agression. Je pense, mais c'est un débat. Peut-être que c'est l'occasion de participer à l'atelier. Mais c'est vrai qu'en sociologie, depuis quelques années, ils font aussi bien la distinction. Enfin, certains courants font bien la distinction entre violence et conflit. Un conflit, c'est justement, ça permet de ne pas laisser simplement des individus seuls face à éventuellement un État qui est au-dessus et qui gère l'ensemble, mais ça permet que de structurer des groupes, groupes, communautés, etc., pour qu'il y ait un dialogue cadré, structuré, qu'on puisse parler des sujets violents. Parce que vas-y.
Ce qui est intéressant, je vais juste parler de la troisième partie qui est donc sur le conflit israélo-palestinien. En fait, ce mot conflit israélo-palestinien ne peut même pas exister. Parce que là, dans ce cas-là, ça, c'est la communauté internationale qui s'arrange bien de dire conflit israélo-palestinien. Alors qu'en fait, si on regarde ce qui se passe, ce n'est pas un conflit.
Ah, on t'a perdu.
À quel moment?
Ce n'est pas un conflit. Vas-y, reprends.
Oui, en fait, si on regarde vraiment ce qui se passe en Israël et en Palestine, on ne peut pas dire le conflit israélo-palestinien. Ça ne marche pas.
Ouais.
Et c'est quand même de l'agression.
C'est de l'agression. C'est de l'agression de... Alors, ne restons pas dans le flou, parce que là, on t'a mal entendu. C'est de l'agression de la part de...
Qui suis-je pour dire ça? Mais genre concrètement, il n'y a que de l'agression si on lit, moi personnellement, je pense que l'État israélien a été dans une agression depuis le début de l'heure qu'ils ont colonisé les terres. Mais après, il y a une agression de l'autre côté aussi, ce qui est normal. Ce qui est normal, attention, je pèse mes mots, mais on est dans un endroit où on n'est plus en conflit, parce qu'ils ne peuvent pas se parler. Parce que là, on est dans une région qui ne peut que être en guerre. Et c'est ça qui est intéressant dans son livre.
D'accord. C'est, voilà. Il y a des agressions de part et d'autre et il n'y a pas de conflit.
C'est pour ça que dire le conflit israélo-palestinien, c'est complètement con. Enfin, c'est complètement hypocrite. Voilà.
Ça ne... D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement brûlant. Je renvoie les auditrices et les auditeurs à cet atelier qui aura lieu demain, le troisième. En tout cas, c'est passionnant, c'est stimulant. Autour du livre « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman. Allez y faire un tour, déjà pour vous rendre compte un petit peu. Allez faire un tour un peu sur Internet, voir ce que vous pouvez trouver dessus. Et puis, surtout, allez donc à cet atelier demain au Vence. C'est maintenant dans les locaux du planning familial, c'est ça?
Exactement. 7 avenue Ferdinand Nadal, et merci au planning de nous accueillir. Ce sera la première fois là-bas. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le livre, hein, ni d'être venu aux deux derniers. C'est vraiment... et c'est gratuit. Voilà.
Eh ben merci beaucoup, et c'est à 19h30. Merci beaucoup Vivi de nous avoir présenté
merci
les ateliers
toi,
et
Sophie.
Ce livre. Vous restez à l'écoute de Fréquence 7, puisque les programmes toujours aussi bons continuent, et puis la musique. À 15h, le Telex, c'est vous qui laissez vos messages d'amour au 04 75 93 30 25. Et oui, Sylvain.
Justement, laissez des messages, parce qu'aujourd'hui, non, il n'y a pas de Telex, parce que j'ai pas assez d'annonces. Donc n'hésitez pas, appelez, laissez vos annonces.
N'hésitez pas, c'est le meilleur moyen, en fait, de vous faire entendre. Laissez vos messages sur les événements et sur et autres aussi, sur ce qui se passe et ce qui vous importe chez vous. 17h, c'est la rediff de l'Onde Curieuse. 18h, solidaire d'abord. 19h, l'écho du parquet, l'émission qui traite des musiques trad. Et à 21h, c'est Hexagon Live. C'est une rediff?
Oui, c'est une rediff. Par contre, ne me demande pas de quoi.
Non, je ne te demanderai pas de quoi. Mais c'est toujours tellement bon, Hexagon Live à 21h. Eh bien, nous, on se retrouve demain pour une prochaine Onde Curieuse. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Nico, qui n'est plus là. Et merci à vous de votre écoute. Ciao.